Il y a quelques semaines, nous avions consacré notre chronique du parc national des Pyrénées à un animal rare, voire même menacé, le dessement des Pyrénées. Rien de tel, aujourd'hui, on change de dimension et on passe de la vingtaine de centimètres du rat trompette au près de 3 mètres d'envergure du vautour fauve. Ce rapace est aujourd'hui présent en nombre sur l'ensemble du massif pyrénéen et notamment au sein des vallées du parc national. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette espèce? Qu'est-ce qui explique son retour en force dans nos montagnes? Observe-t-on des modifications de son comportement, de simple charognard par exemple, l'animal deviendrait-il un petit peu prédateur? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec notre chroniqueur du jour, Didier Peyrusquier, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes garde-moniteur du parc national des Pyrénées dans la vallée d'Ossau, référent en matière de suivi des rapaces. Et avec vous, nous allons parler de l'un d'entre eux, le vautour fauve. Et pour commencer, présentez-nous ce grand rapace, quelles sont ses principales caractéristiques?
Alors, comme son nom l'indique, il n'a de fauve que la couleur, sinon il est un peu pâteau. Les Espagnols l'appellent Leonardo en faisant référence à son côté lion, non pas toujours avec l'agressivité. Son côté lion, c'est cette collerette qui lui donne cet aspect. Sinon, quand on s'en retourne au poids, il approche copieusement la dizaine de kilos quand il est bien grassouillé. Il peut survivre à 5 kilos, ça lui donne une latitude d'énergie, de ressources importantes. L'envergure dans les 3 mètres ce qu'on cite, mais sinon entre 2,50 et 2,80 parce qu'il y a des variabilités dans les individus. Et il marche comme un dindon et il vole admirablement. Et c'est ce qui en fait vraiment un des plus beaux voiliers des Pyrénées, avec le gypaète barbu, bien sûr.
Est-ce qu'on peut, on a une idée du nombre d'individus qui existent dans le parc, ou en tout cas sur l'ensemble du massif?
On réalise des inventaires, des recensements tous les 5 ans qui sont généraux. Et donc, on sait précisément, avec bien sûr l'erreur qui va avec, que par exemple en 2012, nous avions 817 couples sur le versant nord, donc français. Alors pour les Pyrénées, bien sûr, la population se porte mieux qu'il y a une quarantaine d'années, où on était carrément aux limites de l'extinction, de la disparition, mais on est sur une population qui est en cours de stabilisation. C'est-à-dire que nous, en plus de recenser le nombre de couples, donc les adultes, on fait des suivis aussi dans les colonies, entre autres celles suivies par le parc national sur la réserve naturelle d'Ossau, où on note la dynamique de la reproduction, c'est-à-dire si finalement les 100 couples qui nichent à Ossau donnent toujours 80 ou 90 jeunes à l'envol, ou si elles n'en donnent plus que 50 ou 40, ce qui nous donne un aperçu de la dynamique de la population.
Comment se passe justement ce cycle de vie du vautour fauve, ses habitudes de reproduction, son alimentation?
Alors cet oiseau, ce rapace, est lourd et il mise sur la longévité. Et la longévité, ça va être sur sa durée de vie, donc il va pouvoir atteindre 30-40 ans sans souci. Et cette longévité fait qu'en fait, il peut se reproduire à petite échelle, c'est-à-dire qu'au bout de 4-5 ans, il va commencer à s'accoupler, à s'apparier, je veux dire, ensuite s'accoupler et puis à se reproduire. Et si sur une trentaine d'années, ce même oiseau est capable de donner 10-15 jeunes qui vont survivre, vous voyez que la population, elle va s'amplifier. C'est ce qu'on a noté. Par exemple, en une trentaine d'années, les populations de vautours se sont multipliées par 10. Et si elles se sont multipliées par 10, c'est pour deux raisons. Un, c'est parce qu'elles trouvaient bien sûr des ressources alimentaires, des sites pour nicher, et après un confort dans l'aérologie pour se déplacer. Mais elles ont aussi, surtout, elles se sont aussi multiplié, dynamisé, parce qu'il y avait des conditions plus propices à la reproduction. C'est-à-dire que on est passé par une phase presque d'extinction de l'espèce, liée sans doute à l'usage de produits vétérinaires ou chimiques qui étaient létaux et qui mettaient à bas finalement toutes ces populations. Alors c'est valable pour le vautour fauve, mais c'est valable pour les percnoptères, les gypaètes. À un moment donné, on a joué un petit peu aux sorciers en pétrochimie Et on a envoyé dans la nature des poisons qui nous empoisonnent à nous, mais aussi aux rapaces. Et là, en ce moment, je ne veux pas dire que tout est gagné, mais on a quand même des conditions de vie qui sont meilleures pour les vautours. Ici, ce n'est pas non plus vrai partout dans le monde.
Alors, vous le disiez, une stabilisation, ou en tout cas un léger renforcement de la population, mais il existe malgré tout des fragilités potentielles. Quels sont les moyens d'action du parc dans ce domaine?
Alors le parc, bien sûr, s'intéresse aux menaces qui pèsent sur toutes ces populations de rapaces et essaye comment dire ça, de les gérer, de les résoudre. Alors c'est vrai que les lignes électriques, c'en est une, mais ce n'est pas forcément la plus importante. Alors quand on a une ligne aérienne à proximité d'un couple de gypaètes barbus, qui est une espèce précieuse et rare, c'est sûr que ça complique. Donc on fait tout pour signaler ces lignes aériennes pour que les oiseaux ne se trompent pas dans leur ligne de vol et percutent ces lignes-là. Quand des vautours sont à proximité de pylônes aussi, on fait en sorte qu'ils ne puissent pas se poser commodément sur les pylônes, comme on fait pour les cigognes. Mais je dirais qu'après, ces menaces-là, elles sont quelque part maîtrisables. On a une menace plus insidieuse qui est pour les populations de vautours actuellement, celle de l'autorisation du diclofénac. Le diclofénac est une matière active qui est utilisée dans des anti-inflammatoires sur le cheptel domestique. Et ce diclofénac a décimé les populations de vautours en Inde et dans tous les pays proches de l'Inde. Et ici, il est demandé des autorisations de mise sur le marché pour ce produit-là. Et donc, tous les protecteurs ou tous les gens un petit peu informés ne redoutent qu'une chose, c'est qu'il soit autorisé. Parce qu'à ce moment-là, on pourrait assister à un effondrement de ces 100 000 vautours, de ces centaines de gypaètes en l'espace de 4 ou 5 ans. Ça veut dire que quand on a des effectifs comme ça importants de rapaces, c'est pas pour autant qu'on peut estimer qu'ils sont sauvés, tirés d'affaire. Ils sont malgré tout vulnérables et en très peu de temps, ça peut être comme une prairie qu'on va défolier. Ils peuvent être tués sur le champ et très rapidement. Et c'est à nous d'être vigilants là-dessus. Et c'est un petit peu ce que nous faisons au parc. On lance des alertes et on essaye de prévenir un petit peu. Voilà.
Dernière question, on évoque parfois alors une évolution du comportement du vautour fauve, qui est considéré comme un animal nécrophage, c'est-à-dire qu'il se nourrit uniquement de bêtes mortes, et qui deviendra un petit peu prédateur en s'attaquant notamment à des animaux malades ou fragilisés. Et l'avez-vous observé, vous, sur le terrain?
Le vautour et son changement de comportement, ça, c'est un thème qui a beaucoup été controversé sur ces 15 dernières années. Et on y a beaucoup travaillé, bien sûr, puisqu'on est à la fois à protéger les oiseaux et à expliquer finalement à l'administration le bien fondé de toutes ces allégations, si on peut dire. Au final, on se rend compte que cette controverse a fait un petit peu pchit, comme ils disent. C'est-à-dire que, bien sûr, la réalité, c'est que, exceptionnellement, sur des bêtes en mise bas, on peut avoir des vautours qui s'approchent de bêtes en difficulté, pas sur une mise bas ordinaire, des bêtes qui sont en difficulté, qui ont eu un retournement de matrice, qui sont allongées, qui ont des difficultés à mettre bas. On peut avoir des vautours qui viennent abîmer ces matrices ou des blessures déjà un petit peu causées par des chutes ou autres, mais c'est exceptionnellement rare. Et on a surtout, et les bergers eux-mêmes le constatent, des vautours qui attendent finalement, un petit peu comme on le disait autrefois, que les bêtes trépassent pour s'en repaître. L'idée qu'on assiste à un changement du comportement, je dirais, c'est les mauvais esprits qui en sont venus là. Le comportement, en plus de nécrophage, c'est l'héritage de l'évolution. Et bien sûr, on ne va pas le transformer en quelques années. C'est pas comme ça que ça se passe réellement dans la nature. Par contre, il y a comportement et comportement. Un comportement, vous savez, on a les hirondelles qui sont dans nos granges. Si demain, vous leur mettez la musique à fond, que vous tapez, que vous les dérangez, elles vont s'enfuir et elles ne reviendront pas. Si 15 jours après, vous êtes tous là en train de les câliner, forcément, ces oiseaux vont devenir un petit peu plus familiers. Donc, ce comportement, cette proximité de l'homme, toute la faune sauvage y est sensible. Donc, c'est là où on a des comportements qui sont évolutifs, si on peut dire. Mais le comportement propre du régime de la nécrophagie, non, ça n'a pas bougé, ça. Hein.
Didier Perrusquet, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes garde-moniteur au Parc national des Pyrénées, dans la vallée d'Ossau, référent rapace, et qu'avec vous, nous avons parlé principalement aujourd'hui du vautour fauve. Merci.
Merci à vous.